Donc, Marianne Vernier m'a confié la tâche de débuter avec vous cette journée sur la Trinité chez Eckhart. Le programme étant initialement la Trinité chez Eckhart et Toller, deviendra ce matin la Trinité chez Toller et Eckhart, car je traiterai exclusivement de l'œuvre de Jean Toller, le disciple de Maître Eckhart, et nous envisagerons sa vision de trinitaire à l'aune de deux de ses sermons, les sermons 28 et 29, selon l'édition de Huguenie et Corin. Donc, la photocopie qui passe entre vos mains, ce sont donc les sermons 28 et 29 de Jean Toller, dans leur intégralité. Nous les parcourrons au gré de quelques extraits pendant l'exposé. Je trouve qu'il est toujours bien d'avoir par devers soi l'intégralité d'un texte que l'on envisage d'étudier. Et avant de rentrer dans le vif du sujet sur le plan de la théologie et de la spiritualité, permettez-moi d'ouvrir le propos avec une illustration d'ordre iconographique. Il est vrai que je suis assez tenté de m'aventurer du côté des images. Avant de prendre ce propos de Jean Toller puis de Maître Eckhart, qui est de l'ordre de la désimagination, au-delà de toute image, mais pour aller au-delà de toute image, il faut les traverser. Alors, en titre de préambule, permettez-moi de commencer avec les vierges ouvrantes du XIVe et XVe siècle. Un type de représentation que vous connaissez peut-être d'ailleurs, puisque au musée de Cluny, ici à Paris, se trouve l'une de ces vierges ouvrantes, dont on connaît nombre de spécimens, ou tout au moins ils étaient identifiés, en vallée rhénane. Certes, ce n'est pas la vallée rhénane qui est dépositaire de ce type d'iconographie. On en trouve sur l'ensemble du territoire du Royaume de France, comme sur celui du Saint-Empire germanique au XIVe et XVe siècle. Mais il est vrai qu'il y a une proportion plus importante en vallée rhénane. Sur vos feuilles, vous trouvez donc deux illustrations. L'une qui vient donc, c'est la Vierge ouvrante de Saint-Mathieu de Morlaix, donc en Bretagne, et qui date de 1400. Et l'autre, qui est lacunaire, puisqu'il manque en fait l'intérieur, à savoir le groupe statuaire de la Trinité, qui vient de Kaisersberg, donc en vallée rhénane, de Oberrhein, Alsace, Haut-Rhin, et qui date de 1360. Il est intéressant de remarquer d'ailleurs que cette Vierge ouvrante de Kaisersberg se trouvait donc dans un couvent de Sœur Clarisse, le monastère en réalité de Halsbach, isolé donc dans cette vallée entre Kaisersberg et la Poutroie. Inspirée donc de la dévotion et de la liturgie, l'étonnante Vierge ouvrante de l'abbaye d'Halsbach révèle une difficulté inhérente à l'expression du mystère divin. En effet, lorsqu'il prend forme dans un concept ou une image trop contraignante, le langage théologique risque de défigurer le mystère divin. C'est bien pour cette raison que Maître Eckhart et Jean Toller, les mystiques rhénans du XIVe siècle, recommandent vivement de traverser les images pour aller au-delà des images. Dans la vallée rhénane des XIVe et XVe siècles, comme en France par ailleurs, la Vierge ouvrante est, comme vous le voyez, une statuette de bois, le plus souvent, mais aussi en albâtre ou en ivoire, et représente Marie et l'enfant. Elle a la particularité de s'ouvrir par devant, depuis le cou jusqu'aux pieds, grâce à deux volets qui, tels les panneaux d'un retable, permettent de découvrir une représentation de la Trinité ou du Christ en croix. Et cette dimension de retable à volets latéraux, vous l'avez très bien représentée dans la Vierge ouvrante de Morlaix, où vous voyez sur trois registres des scènes de part et d'autre, donc de la vie du Christ, scènes de l'enfance. Cette Vierge, comme celle du musée de Cluny, qui date du 15e siècle, tout début du 15e siècle, elle est des mieux conservées. Vierge en enfant en bois doré polychrome, sur les volets sont peints donc, des scènes, et cette trinité qui se trouve à l'intérieur représente le Père qui, assis sur un trône, tient de ses deux mains la croix sur laquelle est offert le Fils. Avec l'Esprit-Saint placé d'ordinaire entre les deux visages, du Père et du Fils, cette figure manifeste la charité qui préside dans le don du Fils selon la volonté du Père jusqu'à la mort, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Connue depuis le XIIe siècle, cette figure de compassion de Dieu est communément appelée le trône de grâce, selon une expression de Martin Luther, d'après Hébreux 4, verset 16, je cite, « Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de grâce. » La Vierge ouvrante abrite donc en son sein l'essence du mystère divin, à savoir la communion divine. L'idée qui préside à cette représentation est séduisante, mais le message qu'elle véhicule prête à confusion. Car ce n'est pas l'essence du mystère divin qui immédiatement s'impose au regard, mais la représentation du fruit des entrailles de Marie. Imaginées par les artistes du XIVe siècle, les Vierges ouvrantes ont été jugées malséantes par les théologiens du XVe siècle, dont le célèbre Gerson, qui fut tant admiré et loué par Jean Geyler de Casesberg, le grand prédicateur de la cathédrale de Strasbourg au XVe et début du XVIe siècle. Chancelier de la Sorbonne, Jean Gerson est le théologien à qui l'Église doit, vous le savez, la réhabilitation de Jeanne d'Arc. Dans un sermon pour la Nativité, Gerson s'en prend à l'accusation d'idolâtrie que les Juifs adressent aux chrétiens fait en Noël et s'en prend ensuite aux images qui égarent les simples en exposant l'écriture de travers. Je le cite. « Il faut veiller à ce qu'aucun récit ne faux ne soit peint. Je dis cela en partie à cause d'une image qu'on trouve chez les Carmes et d'autres semblables qui ont une trinité en leur ventre comme si la Trinité tout entière avait pris chair en la Vierge Marie. Je juge ces images dépourvues de beauté et de dévotion. Elles peuvent même provoquer l'erreur et l'impiété. » Comme en témoigne l'exemplaire que vous avez sous les yeux, et n'en déplaise à Jean Gerson, la Vierge ouvrante des XIVe et XVe siècles ne manque pas de beauté plastique. Cependant, dans ce qu'elle donne à percevoir du mystère divin, elle risque de susciter étonnement et incompréhension. Dans ce type de représentation, l'artiste donne forme, Bild en allemand, Bildung, une représentation, à une idée comme une à Hugues de Saint-Victor, Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, qui dans l'ouvrage et traité spirituel aime à dire que l'âme de Marie, en état de grâce, est habitée par les trois personnes divines. Dans une hymne liturgique attribuée à Adam de Saint-Victor, Notre-Dame est même appelée « Sancte Trinitatis nobile triclinium », c'est-à-dire « noble couche de la Sainte Trinité ». On l'appelle aussi « Marie Trinitatis Thalamus », donc la chambre de l'épouse donc à l'égard de la Trinité. C'est là donc une figure poétique fondée sur la parole johannique « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure ». Citation de Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, le Verbe, et nous reverrons cette figure du Verbe dans la notion de la naissance de Dieu dans l'âme ou de l'âme à Dieu chez Eckhart et Jean Tauler. Il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure, une habitation divine. Chez les mystiques rhénans, profondément marqués par le mystère de la communion divine et de l'inhabitation divine, le thème de la naissance de Dieu dans l'âme est une expression de cette inhabitation. Cependant, conformément à la doctrine des pères de la foi, il s'agit d'une naissance du Verbe de Dieu, c'est-à-dire du Fils de Dieu, donc de la seconde personne de la Trinité, et non pas de la Trinité en elle-même. Car l'essence divine ne peut pas être le fruit des entrailles de la nature humaine. L'incréé ne peut pas être le fruit des entrailles d'un être créé. C'est en effet en Jésus-Christ que Marie est mère de Dieu, et non pas dans le Père. Ainsi, en invitant tout fidèle à traverser les images pour aller au-delà des images, Jean tolère de sa prédication ordinaire auprès des moniales, auprès des béguines de la vallée rhénane, recommande donc d'aller au-delà de ce que les arts donnent à voir, avec plus ou moins de bienséance, et par conséquent de dépasser les limites du langage théologique et spirituel qui lui-même est à l'origine de ce type d'image. Dans les arts de la fin du Moyen-Âge, il est toléré que la Vierge contienne dans son sein l'enfant Jésus à l'état embryonnaire, et là on a quelques exemples notamment au musée de Bâle, pour matérialiser le mystère de l'incarnation. Mais il n'est pas concevable qu'elle serve d'habitacle à la Sainte Trinité. Pour Jean Gerson et ceux qui avec lui et à sa suite se font les détracteurs des Vierges ouvrantes, dont le Concile de Trente, puis au XVIIIe siècle le pape Benoît XIV, le problème suscité par cette représentation n'est peut-être pas tant dû au risque que les fidèles voient la Vierge Marie, mère de la Trinité, qu'au risque de voir accuser l'Église de diffuser une telle erreur. Ainsi, à partir du XVIe siècle, ces vierges ouvrantes disparaissent des églises, des chapelles et des oratoires où la dévotion les avait suscitées. Quoi qu'il en soit, du temps de Jean Tolère, disciple de Maître Eckhart, à Strasbourg et dans le Oberrhein de Bâle à Cologne, ce type de représentation est assez ordinaire. Et c'est effectivement devant ce type d'ouvrage plastique que peuvent prier les moniales et les béguines auxquels le disciple de Jean Tolère est député à la prédication. Alors c'est cette prédication que nous allons parcourir avec ces extraits des sermons 28 et 29, pour envisager cette trinité chez Jean Tolère. En quoi, effectivement, se rapporte-t-elle à ce type de représentation, et en quoi cette prédication de Jean Tolère se distance de ce type de représentation. Jean Tolère, je le répète en quelques mots, si vous ne le situez pas d'emblée, il est né à Strasbourg en 1300, il rentre au couvent dominicain Saint-Barthélemy de Strasbourg en 1315. Il y demeure quasiment jusqu'à la fin de sa vie en 1361, non sans avoir pris le temps de traverser le Oberrhein de Bâle à Cologne auprès des moniales et des béguines auxquelles il était envoyé. La cura monialum dont il hérite de Maître Eckhart, dont il est le disciple. Maître Eckhart ayant résidé à Strasbourg entre 1313 et 1323, Jean Tolère est donc un des étudiants qui a pu bénéficier d'une manière privilégiée au Studium de Strasbourg de la prédication de Maître Eckhart. Je dis de la prédication et non pas de l'enseignement, puisque Maître Eckhart n'a pas enseigné à Strasbourg. Il enseignait à Paris et non pas à Strasbourg. À Strasbourg, il avait donc la charge des moniales sur l'ensemble donc du territoire de l'Oberrhein, mais aussi sur l'ensemble de la province dominicaine de Teutonie, c'est-à-dire de Antwerpen, Anvers, dans les Flandres, à Wien, Vienne, en Autriche. Donc un territoire de la Teutonie dominicaine particulièrement important, mais dont Strasbourg est l'épicentre. Si vous situez Strasbourg sur une carte, il est à mi-chemin entre Antwerpen et Wien. Et dès lors, Maître Eckhart, sans avoir été quand même jusqu'aux marges de cette province dominicaine de Teutonie, a néanmoins rayonné sur le pourtour et en particulier dans la Pfaffengasse, la rue des prêtres. C'était le nom que l'on donnait à ces Oberrhein de Cologne à Bâle, qui était effectivement une région particulièrement peuplée de monastères, de couvents, d'où le nom qui lui était donné dès le XIIe, XIIIe siècle, la Pfaffengasse. À Strasbourg, Jean Tolère devait s'adresser à pas moins de 7 monastères de dominicaines, et outre ceux de l'Alsace, et outre ces monastères dominicaines, il y avait donc les moniales, les béguines. À Strasbourg, béguines et moniales représentaient une population de 1000 personnes sur une ville de 15 000 âmes, ce qui est particulièrement important. Arrivons donc à cette prédication de Jean Tolère. La Trinité, dans cette prédication, n'est pas en soi le thème privilégié. Elle est néanmoins le jalon essentiel de la doctrine de la naissance de Dieu dans l'âme, propre au mystique rhénan, Maître Eckhart le premier. Deux sermons prêchés à l'occasion de la fête de la Trinité permettent de ressaisir le mystère trinitaire qui donne au corpus tolérien un caractère particulier. Il s'agit donc des sermons 28 et 29 de la numérotation de l'édition et de la traduction de Huguenie, Thierry et Corin, que vous pouvez trouver actuellement aux éditions du CERF et de la collection Sagesse chrétienne. Dans l'édition critique en Mittelhochdeutsch, Jean Tolère, par Ferdinand Vetter en 1911, les numéros de ces sermons sont respectivement 28 pour le 28 et 60D pour le 29. Donc si vous voulez vous reporter au moyen ottoman, il faut donc envisager les sermons 28 et 60D de l'édition de Ferdinand Vetter. Alors, voyons plus avant cette prédication de Jean Tolère. Jean Tolère, qui soit dit en passant, a une formation ordinaire au couvent de Strasbourg, où se trouve un studium qui est le premier dans cette province dominicaine de Teutonie, après celui de Cologne, donc studium général de Cologne.